Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver dans les décodeurs de l'écho. La France est toujours championne de l'OCDE de la dépense publique, une dépense publique qui s'élève à 56,5% du PIB. Et un rapport très attendu justement va arriver dans quelques jours, le rapport Cap 22 qui préconisera ses solutions pour rendre l'action publique plus efficace et in fine bien sûr faire des économies budgétaires. Et une fois de plus, le gouvernement nous promet une nouvelle méthode. Une fois de plus, le gouvernement nous promet que les esprits sont mûrs. Bref, une fois de plus, le gouvernement nous assure que cette fois-ci, c'est la bonne. Alors la France est-elle vraiment prête à réduire sa dépense publique? On en parle dans les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Mathieu Jolivet reçoit les décodeurs de l'écho.
Et pour évoquer ensemble ce sujet de la dépense publique, autour de moi, autour de cette table, nous ont rejoint Michel Brevard, membre du bureau national SNU-FSU de Pôle emploi, Christian Babusio, vice-président exécutif du Cercle de la réforme de l'État, François Eckal, spécialiste des finances publiques, président de FIPECO, Mathieu Plane, économiste à l'OFCE, et Victor Poirier, responsable des travaux liés aux finances publiques à l'Institut Montaigne. Messieurs, bienvenue et
bonjour.
Bienvenue dans les décodeurs de l'écho. Juste pour commencer, je vous explique, hein, parce que juste derrière moi, on a mis un petit compteur de la dette publique de la France. C'est plus symbolique qu'autre chose, hein, mais vous voyez, au moment où on débute cette émission, on a une dette publique qui est à 2 297 577 millions. En fait, vous voyez, le chiffre est tel que j'arrive même pas à le prononcer. Veuillez m'excuser. Voilà, mais c'était important, je pense, de marquer les esprits quand on parle de la dépense publique, d'avoir toujours en tête le poids de la dette en France qui s'approche lui aussi des 100% du PIB. Et on a quasiment une heure ensemble, donc on va aussi en profiter pour apporter un petit peu de perspective à ce sujet qui est assez lourd et technique en soi. Et notamment en préparant cette émission, eh bien, je me suis rendu compte qu'en 1968, il y avait déjà une thématique autour de la rationalisation de la dépense publique, puisqu'il y avait à l'époque la rationalisation des choix budgétaires. En fait, Christian Babusio, enfin, si on fait un tout petit peu d'historique, et promis, on va pas en faire pendant une heure, mais on se rend compte que cette promesse de mieux dépenser l'argent public, c'est une promesse qui a accompagné quasiment toute la Ve République.
Tout à fait. Et il faut se souvenir que la Ve République, elle est née de la crise de la Quatrième, qui était notamment une crise de finances publiques, hein. Et que, au début de la Ve République, le général de Gaulle remet d'aplomb les finances publiques, avec Pinay et Rueff, hein. Je pense que c'est important d'avoir cette perspective. Alors, il y a eu beaucoup de tentatives ensuite, et c'est bien ça l'un des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a eu tant d'annonces, tant de noms donnés à des velléités ou à des volontés de réforme de l'État que ça pose un problème de crédibilité, au fond, pour tout le monde. Il y a eu, vous le rappeliez, très lointainement, cette RCB, à l'époque, d'ailleurs.
La rationalisation des choix budgétaires. 1968.
Et à l'époque, le budget était équilibré, hein, puisque c'est depuis 1974 qu'on a un déficit constant. Alors, il y a eu, dans la période la plus récente, il y a eu notamment la fameuse RGPP, la révision générale des politiques publiques.
Sous Nicolas Sarkozy,
mais qui a très vite capoté en réalité, et notamment parce qu'elle a été assimilée au fameux 1 sur 2, c'est-à-dire suppression de un emploi pour deux départs à la retraite. Et puis il y a eu dans la période plus récente, sous François Hollande,
la modernisation de l'action publique,
mais qui a eu du mal à trouver un contenu. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté de rupture avec ce qu'avait été la RGPP, mais elle n'a pas vraiment pris du contenu. Maintenant, on parle de Cap 22, on va voir ce que c'est. Bien entendu, il faut une réforme de l'État.
Alors, bien sûr, quand on parle de réduire la dépense publique, derrière, ce qu'on nous explique, c'est que Avant de parler de chiffres, on parle de rendre l'action publique plus efficace. Ça aussi, ce discours-là, François Eckel, c'est un discours qu'on tient depuis 50 ans. Je rappelle que en 50 ans, malgré toutes les promesses, eh bien, on a une dépense publique qui s'est accrue de plus de 300 milliards, hein, de 15 points de PIB, quasiment. Et peut-être un des épisodes, hein, puis après on va terminer sur ce chapitre historique, mais peut-être un des épisodes les plus intéressants qu'on a eu dans l'histoire des finances publiques a été la LOLF, non, dans les années 2000, où là, il y a eu une vraie tentative de rationalisation concrète. Après, peut-être trop technique, mais...
Alors, c'est vrai que la LOLF a été une très grande ambition, puisqu'il s'agissait de réformer complètement les cadres budgétaires. Donc aujourd'hui, la LOLF, c'est ce qui définit les procédures budgétaires, la manière dont le budget est voté, exécuté, contrôlé, etc. Et on était parti avec de grandes ambitions, par exemple avec l'idée qu'on allait justifier toutes les dépenses au premier euro. Autrefois, avant la LOLF, le Parlement n'examinait pas ce qu'on appelait les services votés, puis n'examinait que les mesures nouvelles. Alors, on se dit, c'est absurde, il faut tout réexaminer dès le départ, depuis le premier euro.
Un peu comme dans une entreprise.
Comme dans une entreprise, un budget base zéro. Et donc,
et avec des critères de performance.
Avec des critères de performance. Et donc, après, on pourra examiner les résultats des administrations, les juger. Chaque année, on fera des projets de performance et puis on examinera les résultats avec des rapports sur la performance. Donc on a construit une énorme cathédrale bureaucratique qui coûte très cher parce qu'il y a des milliers de personnes qui remplissent des centaines, des milliers de pages de rapports chaque année avec des indicateurs de performance, des objectifs, etc. Tout ceci ne sert pas à grand-chose parce que, en réalité, l'allocation des budgets, la répartition des budgets n'a aucun rapport ou aucun très lointain rapport avec les résultats des politiques publiques tels qu'ils apparaissent dans ces indicateurs de performance. Donc c'était une immense ambition, mais qui malheureusement est en effet est arrangée dans la catégorie après la RCB, avant la RGPP, des grandes déceptions.
Donc, à vous entendre, le débat n'a pas bougé. On a vu défiler les acronymes. Vous aussi, Michel Brevard, hein, je rappelle, vous êtes membre du bureau national SNU-FSU de Pôle emploi. Vous les avez vus aussi un peu défiler, ces acronymes. Hein. Et le dernier qui va s'officialiser, c'est dans quelques jours, le rapport de CAP 22.
De CAP 22, oui. Bien sûr qu'on les a vus défiler, j'emploie le terme à dessein, puisque en fait, ça revient comme le printemps, quoi. Y compris les inspections sur l'activité menée par ou la Cour des comptes ou l'Inspection générale des finances, qui régulièrement, et sur commande bien souvent, débarquent dans les entreprises publiques, dans les établissements publics, pour, vous l'avez dit, sortir des rapports qui sont ensuite exploités. J'allais dire, le rapport par lui-même, il est factuel, bien sûr. Hein, c'est l'exploitation derrière que l'on peut en faire. Et puis, il y a des questions à se poser, parce que, si je prends l'exemple de Pôle emploi, avant même qu'on ait les conclusions de CAP 22, ça devrait sortir dans quelques jours, on annonce déjà 4000 suppressions de postes à Pôle emploi, dans ce cadre-là. Donc, alors qu'il y a... L'étude n'est pas encore bouclée. Hein, enfin, tout au moins, elle n'est pas encore publique.
L'étude n'a jamais été confirmée officiellement.
Alors, ni confirmée, ni infirmée, hein, ni démentie. Par le Jean Bassère, le directeur général. Donc, on peut s'interroger aussi. De même que CAP 22 a démarré par quoi ? Par l'annonce quand même de la suppression de 120 000 postes dans la fonction publique. Donc avant même l'étude, avant même le rendu de l'étude, on annonce les suppressions de postes. Donc voilà, on peut s'interroger hein, aussi sur alors l'utilité du coup hein, de ces rapports et même de ces réformes hein, qui c'est vrai ont des destins plus ou moins flous. Hein,
et en même temps, Michel Brevard, quand on aborde ce sujet du poids de la dépense publique en France, est-ce qu'il n'est pas sain aussi de s'interroger sur l'évolution de la fonction publique ces dernières dizaines d'années ?
Bien sûr, mais on fait état de chiffres. Mais les chiffres, on prend le problème par les chiffres. Mais 56% le poids de la dépense publique. Mais qui peut juger que c'est trop ou pas assez ? Tout dépend de ce que cela comporte, c'est-à-dire les missions. Il faut partir des missions. quelle société voulons-nous ? Voulons-nous une société avec des services publics, bien sûr performants, mais avec, des services publics pour tout le monde, accessibles à tous et dans tous les coins du territoire ? Où voulons-nous une société complètement, dérégulée, où chacun, on retourne à l'état sauvage, quoi. Voilà. Donc, les services publics participent à la cohésion du territoire, participent à l'accès aux droits de tous les usagers, de tous les habitants de ce pays.
Mathieu Plane, vous êtes économiste à l'OFCE, donc dans quelques jours, on va avoir ce rapport de CAP 22 qui va finalement donner le là des véritables intentions du gouvernement sur la définition des nouveaux périmètres de l'État et en toile de fond, bien sûr, cette problématique de baisse de la dépense publique. Alors, il y a un chiffre que nos confrères des Échos ont sorti ce matin qui est quand même le chiffre de 30 milliards de baisse de la dépense publique qu'avancerait, hein, je parle bien au conditionnel, ces experts de CAP 22, surtout 30 milliards en valeur absolue. Est-ce que vous voulez ou pouvez commenter ce chiffre?
Alors, bon, d'abord, il a fuité dans la presse, donc il va falloir voir le rapport un peu dans le détail. C'est vrai qu'on parle de 30 milliards en valeur absolue. C'est vrai que là, quand on fait de l'analyse économique et qu'on regarde ce que représente un effort structurel sur la dépense publique, c'est assez compliqué de le mesurer parce qu'on le regarde pas en valeur absolue. D'ailleurs, c'est pareil pour la dette publique. Là, on met un compteur de la dette publique qui augmente. En face, vous montez pas le PIB qui augmente. C'est-à-dire que le PIB augmente. Si le PIB augmente plus vite que la dette publique, bah, votre ratio de dette publique diminue. Et le PIB, votre capacité à rembourser. Le problème, c'est quand vos PIB augmentent pas assez par rapport à la dette ou la dépense. Donc toute cette économie, effectivement, et par rapport à une trajectoire...
On a des dépenses plus élevées que...
Et ça, c'est vrai. On a une dette qui a augmenté. Le problème, c'est qu'elle a surtout énormément augmenté depuis 2007 avec la crise économique. On a pris plus de 30 points de PIB. C'est à peu près ce que la moyenne des pays de l'OCDE ont connu. Donc c'est pas une singularité française là-dessus. Le vrai problème, c'est qu'on a eu 30 points de PIB, mais pas de contrepartie qui était, par exemple, l'accumulation d'actifs. Jusqu'à présent, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quand même de l'investissement. Quand vous regardez les comptes de patrimoine des administrations publiques, on a accumulé des actifs en face d'une dette. C'est-à-dire que cette dette a servi aussi à financer un certain nombre d'infrastructures, des hôpitaux, des écoles, un certain nombre de choses. Là, le problème, c'est qu'on a pris une crise avec 30 points en gros de dette publique supplémentaire, mais pas de contrepartie qui sont les actifs. Donc ça, c'est un des premiers problèmes. Le deuxième problème, et qu'il faut quand même soulever, c'est que la dépense publique, comme ça a été dit, effectivement, tout le monde est d'accord pour dire il faut améliorer l'efficacité. Maintenant, comment on fait pour améliorer l'efficacité et quelles sont les singularités de la France face à cette dépense publique? Et c'est vrai, quand on regarde, parce que là, on parle beaucoup de l'efficacité de l'État, et en fait, l'État représente 35% de la dépense publique. Il faut savoir que les collectivités locales, c'est 20%. Et après, il y a toute l'administration de sécurité sociale. Et si vous regardez historiquement, ce qui a augmenté, c'est surtout les dépenses liées aux administrations de sécurité sociale et principalement les dépenses de retraite et de santé. Et une des singularités françaises, c'est que ces dépenses-là sont mutualisées. Alors que dans d'autres pays, effectivement, elles reportent plutôt sur une partie privée de ce type de dépenses. Et donc les comparaisons sont quand même importantes. C'est que derrière, il y a aussi, bien sûr, il faut améliorer l'efficacité de cette dépense-là, mais il y a aussi des choix de société.
Vous avez raison, Mathieu Plane, de soulever le poids des dépenses sociales sur ce sujet de la dépense publique. Et là, j'ouvre une courte parenthèse, mais c'est important parce qu'on l'a appris cet après-midi par la commission des comptes de la Sécurité sociale, qui nous dit que les comptes de la Sécu seront quasiment à l'équilibre en 2018, ce qui serait une première depuis 17 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire
Et là, c'est toute la difficulté chez les économistes, c'est de voir qu'est-ce qui est structurel et conjoncturel là-dedans. C'est-à-dire que là, on voit que le redressement des comptes publics est pas lié à des efforts structurels. Depuis 2017, la réduction des déficits publics est principalement liée à la croissance. Or, les périodes où on a fait beaucoup d'efforts, finalement, on a eu très peu de croissance, et du coup, les déficits se sont finalement assez peu réduits. Donc ce que je veux dire, c'est que dans les ajustements budgétaires, dans la soutenabilité de la dette publique, dans la soutenabilité des dépenses publiques, il y a tout ce qui est derrière la trajectoire économique, quel est le potentiel de croissance d'une économie, et donc on peut pas raisonner en valeur absolue. La valeur absolue veut rien dire, on pouvait pas comparer la dépense publique en 1950 à celle de 2017, c'est pareil pour la dette publique. Donc il faut regarder, et c'est ce qui est compliqué, c'est quelle est la soutenabilité des modèles sociaux face à une trajectoire à long terme, de croissance. Et là, la France a un petit avantage, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est qu'il y a un rapport qui est fait par la Commission européenne, qui s'appelle l'Aging Report, qui montre que justement, grâce à notre structure démographique qui est plutôt favorable, bah justement, sur les dépenses de vieillesse, santé et retraite, on a plutôt une bonne soutenabilité par rapport à des modèles comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, où, qui connaissent un choc du vieillissement très fort. Donc c'est vrai que les problèmes aujourd'hui qu'on a, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'exonérer d'un certain nombre d'efforts, font qu'il faut quand même regarder à plus long terme quelle est la soutenabilité des modèles sociaux. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre...
Vous nous dites rendre l'action publique plus efficace, très bien, mais attention à ne pas casser un modèle.
Pas casser un modèle, et surtout, les erreurs qui ont pu être faites, c'est de couper brutalement, au risque de casser la croissance, comme on a pu connaître, ou avoir des réformes qui soient juste des réformes budgétaires sans ambition, et qu'il n'y ait pas des visions plus structurelles derrière. Et là, là-dessus, l'économie, en tout cas, par exemple, l'investissement public, participe à la croissance. Participe au potentiel d'une économie. Donc il faut faire attention. Par exemple, quand on a réduit très fort les dotations aux collectivités locales, qu'est-ce qui s'est passé? L'investissement public s'est écroulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les carnets de commandes aux TPE, PME se sont écroulés. Qu'est-ce qui fait que la croissance a baissé, le chômage a augmenté? Donc faisons attention à ce bouclage-là et pensons pas juste comptablement les choses. C'est qu'il y a vraiment un bouclage macroéconomique à prendre en compte.
Christian Babugio, avant de rentrer dans le dur, notamment avec nos amis de l'Institut Montaigne de Cap 22, de ce qu'on peut attendre aussi des économies dans le budget 2019, pareil, parce que c'est un sujet sur lequel vous avez un périmètre sur lequel vous avez beaucoup travaillé, celui des comptes de la Sécu. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, que nous dit la Commission des comptes cet après-midi avec un régime qui devrait être quasiment à l'équilibre en 2019?
Voilà. Alors, d'abord, si vous me permettez, pour enchaîner avec ce qu'on dit plusieurs, je crois que le problème, c'est le problème global de l'efficacité de la dépense publique. Si on avait une dépense publique efficace, certes, elle est élevée, mais au moins elle apporterait un maximum de satisfaction aux citoyens. Et on peut d'ailleurs se dire que dans l'état actuel de l'économie et de la société, il y a une forte demande de biens sociaux. C'est-à-dire que structurellement, sur le très long terme, on peut estimer que la demande de biens individuels tend à se saturer et que c'est la demande de biens collectifs en matière d'environnement, de santé, etc., qui est une aspiration importante des citoyens. Mais, je crois que, et vous le savez bien, il y a un problème global de compétitivité française et compétitivité de certains secteurs économiques et de compétitivité, d'efficacité de l'appareil public. Et ce que l'on voit bien, et qui est le problème, c'est qu'il y a un désajustement dans la période récente entre les attentes des citoyens et ce qu'apporte l'État. Mais on voit bien que dans des domaines majeurs, que ce soit la santé, que ce soit les personnes âgées, peut-être le transport, et ainsi de suite, il y a un service public qui, malgré son coût, ne répond pas à l'attente des citoyens. Donc il y a un besoin de modernisation. Alors, un mot sur les 30 milliards que vous évoquez, mais vous reviendrez sans doute. 30 milliards, qu'est-ce que c'est? C'est fascinant. Quand vous regardez la dépense publique dans son ensemble de 2017 et celle de 2016 et de 2017, eh bien la dépense publique a augmenté de 30 milliards parce qu'elle s'est un peu accélérée. Et donc, 30 milliards, ça peut paraître considérable à ceux qui nous écoutent. Mais en même temps, en une seule année, les administrations publiques ont consommé 30 milliards de dépenses de plus en 2017. Donc ceci pour relativiser. Alors je sais bien, c'est pas totalement comparable, mais ça donne les ordres de grandeur. Quant à la Sécu, et là je rejoins tout à fait ce que disait Mathieu Plane, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'aubaine qui est dû à la croissance. Il y a eu de plus d'emplois, encore que maintenant on s'interroge davantage, plus de croissance, donc il y a un effet bénéfique de rentrée de dépenses, de recettes publiques qui fait que il y a un effet mécanique vers le rétablissement des comptes. Mais il faut des efforts structurels. Cela dit, l'assurance maladie, donc, a annoncé 4,2 milliards d'économies en 2018, hein. Il faut évidemment se demander si c'est réel ou pas. Mais 4,2 milliards. Et donc, on voit bien que, c'est un chiffre qui est important aussi par rapport aux 30 milliards donc que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire parce que ça montre que des économies sont possibles et il faut se dire oui, c'est possible, on peut avoir une dépense publique plus efficace et on peut avoir des économies si on le veut.
Victor Poirier, vous avez scruté à l'Institut Montaigne les différentes tentatives de réforme de l'État de ces dernières années. Est-ce que là, à quelques jours de la remise du rapport Cap 22, est-ce que vous vous dites peut-être que cette fois ce sera la bonne. Est-ce qu'il y a une démarche, un état d'esprit ou une méthode qui peut faire la différence avec les tentatives vaines de ces dernières années?
C'est difficile à dire. Moi, je serais très prudent sur Cap 2022. Pour revenir un petit peu en arrière, moi, je reviendrai que la RGPP et la MAP, donc à partir de 2007,
ouais.
On a un écueil qui est très important qui ressort, qui est, comme vous disiez, l'impact de l'angle budgétaire, qui est vraiment au cœur de ces deux modèles de modernisation de l'action publique. Et du coup, j'entends ces chiffres de 30 milliards, de 120 000 emplois supprimés. Et en même temps, on peut pas laisser un plan d'action publique et de réforme d'action publique sans y mettre des chiffres. C'est-à-dire qu'on, voilà. Un chiffre sans plan de réforme d'action publique, ça ne fonctionne pas, mais un plan de réforme d'action publique sans chiffres, ça ne va pas fonctionner non plus. Et c'est pour ça que je pense que le chiffre de 120 000 fonctionnaires, par exemple, qui a été annoncé avant CAP 2022, il est important parce qu'il doit permettre de mettre un cadre budgétaire fixe pour cette modernisation de l'action publique, à partir duquel on peut vraiment réfléchir à repenser l'action publique. Et après, un effort qui est très important et qui doit être fait, c'est peut-être un écueil des plans précédents, c'est la pédagogie auprès des citoyens. C'est-à-dire qu'un chiffre de 30 milliards va peu parler aux gens, et vous le dites très bien, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que ça représente. Il faut pouvoir dire aux citoyens, voilà, 30 milliards d'économies, voilà ce que vous perdez, entre guillemets, mais voilà pourquoi est-ce qu'on le fait, voilà pourquoi est-ce que vos services publics seraient plus efficaces. Et là-dessus, il y a énormément de travail à faire, que des think tanks comme l'Institut Montaigne cherchent à faire assez régulièrement, en chiffrant des propositions, en offrant des possibilités de simuler des réformes de finances publiques, par exemple, sur des sites internet. Mais il faut qu'ils soient encore plus faits par l'État, parce que c'est vraiment l'État qui va, dans sa communication et puis dans ses actions, être jugé ensuite sur la réforme d'action publique qu'il va proposer.
Mais vous avez raison, Victor Poirier, d'évoquer la méthodologie qu'il tente de mettre en place derrière. Vous savez, sur ce chiffre des 30 milliards, moi j'ai essayé d'avoir une confirmation dans l'entourage d'Edouard Philippe ou de Gérald Darmanin aujourd'hui. Ce qu'on m'avance, c'est que le prisme budgétaire n'apporte rien si ce n'est la notion de rabot qui est l'antithèse de la méthode Macron. Je cite ce qu'on m'a indiqué à ce moment-là. Ce chiffre n'a pas d'intérêt en soi, c'est ce qu'on me dit à Matignon. Ce qui compte, c'est la transformation des politiques publiques. Les économies suivront, elles ne sont jamais un préalable. Vous, Michel Brevard, quand vous entendez un tel discours, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous ne craignez pas justement qu'on cherche à masquer les objectifs chiffrés?
Non, mais enfin ça fait partie du discours. C'était sur votre plateau il y a une dizaine de jours. C'était exactement la même chose. Et sur un sujet à peu près similaire avec un camarade de la CGT d'ailleurs, CGT Police. Mais voilà. Alors bien sûr que on va chercher à masquer maintenant pour faire de la pédagogie. On va masquer les objectifs. Bon, les objectifs, ils ont été annoncés très clairement dès le début, hein. Voilà, hein, baisser de 3 points la part de la dépense publique dans le PIB. Voilà, bon, excusez-moi, mais c'est quand même une vision technocratique, hein, qui est mise en œuvre et qu'il faut maintenant, entre guillemets, vendre. Non, pas vendre politiquement, ça s'est fait il y a un an maintenant, mais voilà, qu'il faut expliquer à nos concitoyens. Bon, enfin, faudra voir quand même les conséquences. On l'a pas encore, hein. Mais on parlait il y a quelques jours de quand même de propositions explosives. C'était dans toute la presse. Hein. Alors, on les a pas. On va attendre de regarder. Hein. Mais là, on commence la pédagogie, quoi. Voilà, on commence la pédagogie. Alors, il y a 30 milliards. Oui, comment on trouve ces 30 milliards là? Nous, en tant que syndicat, on s'attend à des réductions d'emplois. Hein. Bon, ça a été annoncé. Hein. Alors, donner un cap. Oui, je sais pas si c'est prendre par le bon bout de commencer par annoncer des réductions d'emplois pour ensuite vouloir expliquer qu'il faut des services publics de meilleure qualité. Bon. Je sais pas si c'est vraiment la bonne pédagogie.
Nous, en tout cas, on va faire une courte pause dans les décodeurs de l'écho et ensuite, dans la seconde partie, on va justement regarder un peu ce qu'il y a sous le capot des dépenses publiques et essayer de comprendre où il y aurait des gisements d'économies potentiels à venir. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Mathieu Jolivet reçoit les décodeurs de l'écho.
Bienvenue si vous nous retrouvez dans cette seconde partie des décodeurs de l'écho consacrée à la dépense publique en France, hein, qui est de 56,5% du PIB à quelques jours de la publication d'un rapport très attendu, le rapport Cap 22 avec qui va poser peut-être les bases de la réforme de l'État et de la définition des nouveaux périmètres de l'État, un préalable à une éventuelle future baisse de la dépense publique. Avec mes invités, on va se pencher sous le capot de cette dépense publique pour essayer de comprendre où aujourd'hui on peut trouver des économies. François Eckhall, hein, je rappelle, vous êtes spécialiste des finances publiques, président de Fipeco. On en parlait tout à l'heure, donc il y a bien sûr trois grandes masses, hein, l'État, les collectivités locales et puis la Sécu. Si on va un petit peu plus loin avec notre microscope, où est-ce qu'on peut trouver des gisements intéressants et faciles entre guillemets d'économies?
Ah, facile, il y en a nulle part. Chaque euro de dépense publique est un euro qui va dans la poche de quelqu'un, un ménage ou une entreprise. Donc, si vous lui retirez cet euro, il n'est pas content. Ça, c'est normal.
La question en tous les sens, un effort, c'est un effort. Voilà. De toute façon, il y a un effort.
Voilà. Il n'y a pas de trésor caché.
Il n'y a pas de trésor caché. Voilà. Il y a des choix à faire. Et des choix qui sont forcément douloureux. Après, si vous...
Les efforts pertinents.
Voilà. Alors, comme vous l'avez dit, les dépenses publiques, bon, on a dit donner des chiffres tout à l'heure. Il y a 35% l'État, 20% les collectivités locales, 45% la sécurité sociale. On peut aussi les regarder d'une autre façon, par grande fonction, et comparer à ce qu'on trouve dans la moyenne des pays européens. Donc on peut prendre la fonction éducation, logement, santé, retraite, etc. Et on voit, quand on se compare à la moyenne européenne, qu'on fait un peu plus sur quasiment toutes les fonctions. La seule fonction pour laquelle on dépense moins que la moyenne européenne, c'est la fonction justice et sécurité intérieure. Bon. Après, sur la fonction, alors là, ça tord aussi un peu le coup à une idée reçue. Il y a une fonction pour laquelle on a à peu près le même niveau de dépenses que nos voisins, c'est ce qu'on pourrait appeler les frais généraux. L'administration, je dirais, la plus régalienne, c'est-à-dire les services du Premier ministre, les services, la DGFiP, les services fiscaux, voilà, ce qui sert à faire fonctionner le reste, hein, finalement. Donc là, finalement, on n'en dépense pas plus que les autres, mais partout ailleurs, on dépense plus. Alors bien sûr, le gros morceau, c'est les retraites. Ça renvoie en effet à quelque chose qui a été dit. On a un très gros écart en matière de retraite. On a des retraites qui sont relativement généreuses. On est le pays où le niveau de vie des retraités par rapport à celui des actifs est le plus élevé, et plus supérieur à celui des actifs. On a un système de retraite avec deux régimes par répartition qui s'emboîtent l'un sur l'autre, un régime de base et un régime complémentaire. Ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve à peu près nulle part ailleurs. Donc, on a des spécificités de ce genre qui font que, on a un gros écart sur les retraites. Mais, je vous dis, on retrouve des écarts un peu partout. On dépense deux fois plus, par exemple, pour la politique du logement que la moyenne européenne. Est-ce qu'on est mieux logé? Est-ce qu'il y a moins de problèmes en France de logement pour les populations les plus déshéritées que dans la moyenne européenne? C'est pas évident. Pourtant, on dépense deux fois plus.
Sachant que le logement a déjà, Victor Poirier, été mis à contribution lors du premier budget 2018.
Oui, tout à fait. Les premières annonces ont été faites. Je vais peut-être revenir sur les retraites qui sont pas dans le scope de Cap 2022. Et ça, c'est important de le dire. On a la réforme des retraites qui arrivera en 2019. Et c'est peut-être un des enjeux les plus importants. Ça représente 13% du PIB de prestations versées chaque année, 300 milliards comme vous le dites. Et donc cet enjeu-là, il va être d'autant plus important qu'on va s'inscrire dans une période particulière qui est celle des élections européennes. On va avoir un fort regard sur la France, sur ses engagements en matière de finances publiques. On fait partie des pays aujourd'hui qui n'ont pas vraiment le choix de tenir leurs engagements européens parce qu'on est un des pays au cœur de la construction européenne. On voit l'Italie avec un gouvernement eurosceptique, on voit le Brexit, on voit plusieurs tensions dans des pays qui nous sont très proches. Et donc, il va être impératif, et ce sera le PLF 2019, le projet de loi de finances de septembre qui va nous orienter un petit peu, il va être impératif de vraiment tenir nos engagements auprès de Bruxelles pour être crédible sur la scène européenne.
Un mot de conjoncture quand même, Mathieu Plan, hein, je rappelle, vous êtes économiste à l'OFCE, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même à l'Élysée, à Matignon, on s'appuie sur la conjoncture pour justifier une méthode et des objectifs d'économie. Je précise ma pensée. Par exemple, on entend ces derniers temps, s'il y a plus de croissance et plus de recettes, il n'y a pas besoin d'autant d'aide aux entreprises. Même raisonnement, Michel Brevard, avec moins de chômeurs, moins besoin d'agents de Pôle emploi pour aider et accompagner les chômeurs. Vous voyez, on s'appuie sur cette conjoncture dans le discours.
Hein. Alors, c'est pas totalement illogique, hein, de raisonner comme ça aussi. C'est-à-dire que il faut bien voir que des politiques budgétaires peuvent avoir pour objectif d'être contracycliques. Et contracycliques, c'est-à-dire qu'elles doivent soutenir l'activité quand justement l'économie va mal, et au contraire, bah, faire les efforts quand ça va bien. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on appelle plutôt en haut de cycle qu'on doit faire ces efforts. Maintenant, la question, c'est de savoir à quel moment on est en haut de cycle, ce qui est toujours compliqué parce qu'on a encore un chômage élevé, et des inégalités fortes. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être derrière. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'équation comptable devient complexe. C'est-à-dire que il y a eu des annonces qui ont été faites, des nouvelles, et notamment sur la taxe d'habitation, au départ qui était initialement supprimée pour 80% des ménages, et qui va passer à 100%. Et donc, il y a quand même 9 milliards supplémentaires à trouver dans un intervalle assez court. Sachant que, déjà, dans le mode de financement de la trajectoire budgétaire du quinquennat, il y avait quand même une baisse des prélèvements de 1 point de PIB et 3 points de PIB de baisse de la dépense publique. Donc, ça veut dire que s'il y a des nouvelles baisses de fiscalité, alors on parle aussi des impôts sur la production hein, pour les entreprises, mais en tout cas, il y a la taxe d'habitation. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des nouveaux ajustements budgétaires pour le financer, en tout cas, si on veut pas de... le gouvernement veut tenir ses engagements, ce qu'on appelle le déficit structurel, qui est en fait ce que va regarder la Commission européenne. Donc c'est vrai qu'il y a...
conjoncture.
Mais le raisonnement, on va dire plutôt macroéconomique, apporté par le gouvernement, était plutôt, moi je trouve, malin, c'est de dire on va pas faire de l'ajustement budgétaire fort, ce qui a été aussi une erreur du début de quinquennat de Hollande, hein, avec un choc fiscal majeur, hein, qui a quand même aussi plombé la croissance. Là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus modéré sur le début du quinquennat, et plus d'efforts sur la seconde partie, si, effectivement, on est plutôt dans la période de haut de cycle. Et c'est vrai que on a un peu oublié que dans les politiques macroéconomiques, vous faites pas la même politique économique quand vous avez 6% de chômage et quand vous en avez 10. Or, aujourd'hui, effectivement, les raisonnements ont tendance à oublier que la conjoncture participe à tout ça, et que les décisions de politique économique ont aussi un impact sur la conjoncture. Donc on doit avoir cette approche bouclée, et pas uniquement comptable, de façon à avoir des trajectoires au moins sur plusieurs années, et pas en regarder juste année par année.
Mais est-ce que cette période conjoncturelle qu'on traverse actuellement, Christian Babugio, représente une bonne fenêtre de tir pour s'attaquer véritablement à la baisse de la dépense publique ?
Je crois que c'est indispensable d'en profiter, parce que la fenêtre, elle va pas rester ouverte longtemps. On est plutôt vraisemblablement vers la fin d'un cycle de croissance, parce qu'il y a eu aux États-Unis, mais aussi en Europe, dans beaucoup de pays européens, déjà une phase longue, voire très longue de croissance. On voit aussi qu'il y a en France un endettement non seulement de la sphère publique, mais aussi de la sphère privée, des entreprises, des ménages. Bon. Donc, il n'est pas sûr. Et puis, il y a la possibilité de chocs exogènes. L'Italie, l'Espagne peut-être. Bon. Et l'éventualité d'un resserrement aussi de la politique monétaire BCE à terme. Donc, on voit que c'est maintenant qu'il faut faire des économies. Parce que, avec la dette qui s'affiche, que vous nous affichez seconde par seconde...
Qui tourne au-dessus de nous.
Voilà. Donc, regarde. Vous savez que les intérêts de la dette, c'est 42 milliards. La charge de la dette, c'est 42 milliards par an. Mais
bon, le premier ou deuxième poste...
avec l'éducation nationale. Mais nous profitons des taux bas d'intérêt, puisque la charge de la dette a diminué en 2017 et 2016, malgré l'augmentation du volume de la dette. Bon. Mais dès que les taux d'intérêt commenceront à remonter, eh bien, la charge d'intérêt va croître considérablement. Donc, c'est un peu pour moi une course de vitesse, vous voyez, entre, la vraisemblance, le caractère, de toute façon, un cycle, ça ne dure pas toute la vie, hein, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Donc, le temps presse, il faut réaliser l'économie, et je crois qu'elles sont possible aujourd'hui.
Michel Brevard, sur cette conjoncture, j'aimerais avoir votre avis parce que vous êtes membre du bureau national SNU-FSU de Pôle emploi. Un chiffre a circulé, n'a jamais été confirmé ni démenti. Vous l'aviez évoqué très rapidement au début de l'émission. C'est le chiffre de 4000 suppressions d'agents de Pôle emploi. Avec ce raisonnement, moins de chômeurs, moins d'agents Pôle emploi.
Tout à fait, oui. Alors, l'explication qu'on veut bien nous donner, trouver ça logique. Voilà, s'il y avait une baisse significative du nombre de demandeurs d'emploi, on pourrait examiner la question. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune baisse significative du nombre de demandeurs d'emploi. J'ai pris quelques chiffres. Entre 2013 et 2018...
Vous évoquez toutes catégories confondues.
Les catégories A, B, C, donc les gens qui sont sans travail et ceux qui travaillent un peu pendant le mois... C'est plus 1 million de demandeurs d'emploi de 2013 à 2018. on peut pas parler d'embellie, même si le chômage au dernier trimestre, là, on affichait une baisse de 1%, je crois, 1% en catégorie A uniquement. On a retrouvé ces demandeurs d'emploi dans les autres catégories B et C, c'est-à-dire des catégories où les chômeurs ont non pas un boulot à temps plein, hein, ont des contrats courts, hein, très courts même parfois. Voilà, donc nous, ça nous paraît aberrant qu'on puisse commencer à évoquer des suppressions de postes, c'est-à-dire mettre la charrue avant les bœufs, je vais dire, hein, avant même qu'il y ait un effet réel sur le chômage. Parce que on ne voit pas, ce sont les chiffres, hein, qui parlent, hein. Donc plus 400 000 en catégorie A toujours 2013-2018, plus 600 000 en catégorie B et C, et au total 1 million, hein, de demandeurs d'emploi en plus. Et donc on ne voit pas pourquoi il faudrait supprimer et donc dégrader encore un service public, puisque nous sommes service public, donc dégrader ce service public. Voilà, l'argument pour nous ne tient pas.
Mais alors, loin de moi l'idée de remettre en cause ce que vous développez là aujourd'hui, c'est mais ça. Est-ce que on ne touche pas là aussi à la difficulté que ça va être pour ceux qui vont tenter de mettre en place les préconisations de Cap 22, à savoir que bah, de toute façon, les cibles visées pour faire des économies auront toujours des bons arguments pour dire non, attention, on a commencé à faire des efforts, on a commencé à revoir nous-mêmes la machine, ça va être compliqué, François Eckhall.
Bah, bien sûr, ça va être compliqué. Le problème, c'est que si vous demandez aux gens s'ils veulent moins de services publics, ils vous diront toujours non, aussi bien d'ailleurs les clients des services publics que les fonctionnaires. On aura tout, parce que, et c'est normal.
Mais vous
on
aura toujours besoin de qualité, voilà, efficient.
Mais on aura toujours besoin de plus de santé, d'un meilleur environnement, de plus de sécurité, etc. Le problème des dépenses publiques, et donc on ne sait pas jusqu'à quel niveau on peut aller de dépenses publiques, mais ce qu'on sait, c'est que les dépenses publiques, il faut les financer soit par l'emprunt, soit par des prélèvements obligatoires. Il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a que deux. L'emprunt, on l'a déjà beaucoup fait. On atteint un niveau d'endettement, vous voyez, hein, derrière vous, qui commence à devenir présenter des, enfin, qui pourrait présenter des problèmes et pourrait présenter des risques. Donc, après, ce sont les prélèvements obligatoires. On a un taux de prélèvement obligatoire qui est le deuxième de l'OCDE. Ça n'est probablement pas sans rapport avec le fait qu'on a des problèmes de compétitivité de nos entreprises, d'attractivité du territoire, donc des échanges extérieurs qui sont, déficitaires. Et donc, il y a un moment, si on avait, comme on disait tout à l'heure, si on avait des dépenses publiques très efficaces, très utiles, avec des services publics apportant beaucoup de choses, bah ça pourrait justifier ces prélèvements obligatoires, mais ce n'est pas le cas. Donc soit on arrive en effet à rendre les dépenses publiques beaucoup plus efficaces, mais ça j'y crois pas trop, parce qu'après 50 ans d'expérience de rationalisation des choix de budgétaires, de l'OLF, etc., je suis sceptique sur notre capacité à améliorer l'efficacité de la dépense publique. Donc sinon, eh ben, il faut se résigner, je pense, à faire en sorte que la dépense publique diminue. Le gouvernement s'est donné des objectifs. Bon, ils sont ambitieux. Je pense qu'il faut qu'il essaye de les mettre en œuvre.
Il nous reste malheureusement que quelques secondes. Victor Poirier de l'Institut Montaigne, est-ce que cette méthode finalement qu'arbore aujourd'hui le gouvernement est la bonne, à savoir s'attaquer aux économies par trois fronts, les ministères qui eux-mêmes proposent leur propre plan d'économie, Cap 22 qui sera dévoilé dans quelques jours, et puis ce premier printemps de l'évaluation qu'on a eu le temps d'aborder, mais où les parlementaires essayent de trouver les trous dans la raquette de l'exécution budgétaire de chaque ministre. Est-ce que cette méthode vous paraît bonne et nouvelle?
C'est encore trop tôt pour le dire, encore une fois, mais je pense que le printemps de l'évaluation dont vous parlez, le fait que les ministres viennent présenter devant les députés leur exécution budgétaire, je pense que c'est quelque chose de très sain, qui aurait dû être fait bien plus tôt et avoir le résultat que ça va donner. Mais on est toujours dans cette logique d'évaluation de la performance, du suivi, qui est à mon avis un très bon point pour la gestion des finances publiques françaises. Après, comme le disait Monsieur Eckhall, on est un pivot, c'est-à-dire qu'on a une des prévisions de croissance qui se dégrade par rapport à l'année dernière. On a bénéficié de beaucoup de choses positives d'un contexte vraiment favorable en 2017. Ça veut dire qu'on a deux solutions, soit on réduit les dépenses publiques, soit on augmente les recettes. Ça va être compliqué d'augmenter encore plus les recettes, donc il va peut-être falloir agir sur la dépense.
L'enjeu de cette baisse de la dépense publique qui sera au cœur, bien sûr, de cette publication du rapport Cap 22 dans quelques jours. Merci beaucoup, messieurs. Victor Poirier de l'Institut Montaigne, Mathieu Plane, économiste à l'OFCE, François Eckhall, président du site FIPECO, Michel Brevard, membre du bureau national SNU-FSU de Pôle emploi, et Christian Babusio, vice-président exécutif du Cercle de la Réforme de l'État. Je me retourne derrière moi, il y avait ce compteur de la dette publique de la France qui, au bout de 50 minutes d'émission des décodeurs, atteint 2 297 584 millions. C'est une dette qui s'est accrue grosso modo de 8 millions d'euros durant ces 52 minutes que j'ai eu le plaisir de passer en votre compagnie. À très vite dans les décodeurs de l'écho.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.